Bonjour, bienvenue à ce podcast Perspective de médiation. C'est un podcast concernant la médiation et de façon un peu plus large, les questions comme la négociation, la philosophie de la paix, les dynamiques de conflit. Aujourd'hui, on parle de la médiation par visioconférence. C'est évidemment un domaine qui s'est beaucoup développé depuis la pandémie, mais pas seulement. On connaît ça depuis déjà bien avant. Et pour commencer, j'ai trouvé une caricature sur le web où on voit un médiateur devant son écran, justement. Et sur l'écran, il y a une personne visiblement très fâchée qui dit non, mais même sur Skype, je ne veux pas lui parler. Et le médiateur, dans toute sa sagesse, il répond je comprends. Et si on essayait Zoom? Voilà, donc c'est probablement voué à l'échec, cette démarche-là. Et là, on voit peut-être des premières limites par rapport à la médiation en ligne. On en parlera en détail tout à l'heure. Au niveau des contenus, on va faire quelques réflexions par rapport à la médiation à distance, pas seulement visioconférence, mais à distance de façon plus générale. Ensuite, on va parler du travail en tant que médiatrice, médiateur avec Zoom. On parle de Zoom parce que nous, on utilise ce logiciel-là, c'est celui-là qu'on connaît, mais bien évidemment, tout ce qu'on dit, ça s'applique aussi aux autres solutions comme Skype ou autres. Avant, pendant et après la séance. Donc, j'ai divisé dans ces trois éléments-là. Et on va discuter à la fin quelques éléments spécifiques par rapport à la médiation en ligne où on doit faire vraiment attention. Donc, l'évolution chez nous, chez Gamparly Médiation, nous pratiquons la médiation en ligne par visioconférence depuis un moment. On est accrédité chez MIC en Allemagne pour la médiation familiale internationale. Donc, ce sont des médiations dans le cadre de la procédure de la haie qui concerne les enlèvements d'enfants. Et là, évidemment, si vous avez une coparentalité qui doit s'organiser entre la France et l'Allemagne ou entre l'Angleterre et l'Italie, bien évidemment, là, ça doit se faire souvent en ligne, même si on essaye de se voir physiquement. Mais de le faire en ligne, c'est d'un grand avantage. On a une forte évolution depuis la pandémie 2020. Là, il y avait obligation à certains moments, en tout cas si on voulait continuer à pratiquer, de passer en ligne parce que soit les clients ne voulaient pas venir, ne voulaient pas se déplacer. C'était pas, en tout cas en Suisse, pas vraiment interdit tant qu'on appliquait les mesures de sécurité, mais aussi les tribunaux étaient fermés, donc il y avait plus de délégation de médiation et autres. Là, il y avait vraiment une forte tendance vers la médiation en ligne, au moins pour l'essayer. Auparavant, vous l'avez probablement déjà pratiqué vous-même, si vous êtes médiatrice, médiateur qui n'êtes pas encore passé par la visioconférence. Vous avez certainement déjà eu des échanges par téléphone, voire des phases entières par téléphone, des phases de médiation. Où moi, j'ai eu une formation où il y avait un Américain, et puis les États-Unis, comme c'est très vaste, pour lui, c'était très naturel de procéder par téléphone. Donc, il faisait des conférences téléphoniques avec les deux parties. Pour lui, c'était totalement naturel de procéder ainsi entre la East Coast et la West Coast. Enfin, on se connecte par téléphone. Il disait même par rapport à la comparaison avec une médiation par visioconférence, il trouvait même mieux par téléphone parce que les personnes sont plus concentré sur la voix et sur ce qu'on dit, parce qu'on n'a pas les perturbateurs de l'écran avec les boutons et tout ce qui clignote et autres. Aujourd'hui, il y a tout un domaine qui se développe. On a des organisations qui se sont créées. On a des formations qui sont proposées. On a des accréditations. Il y a le ministère de la Justice en France qui propose des accréditations pour des médiateurs en ligne. Ce n'est pas encore opérationnel, mais il y a déjà un site qui existe, qui en parle. Il y avait je ne sais pas si c'est un décret ou une loi qui est sortie par rapport à ça. Puis là, c'est la mise en place de l'infrastructure pour procéder à ces accréditations-là. On pourra en reparler dans une autre émission. Et au niveau des logiciels, j'en ai vu deux ou trois. Je n'ai pas testé vraiment en détail, mais il y a des logiciels qui. Ils disent que c'est pour faire de la gestion des conflits, de la médiation en ligne avec des logiciels. Ce que j'avais vu, c'était surtout la gestion des cas, des dossiers des clients, genre un espace pour enregistrer les fichiers, la gestion clientèle, peut-être la facturation. Mais en tout cas, pour nous, on a tout ça déjà en place. Donc, nous, il n'y a pas de valeur ajoutée par rapport à ça. Donc, pour le moment, moi, je n'ai pas été convaincu par ce genre de solution de logiciel. Alors, quand pratiquer la médiation en ligne, il y a déjà l'essentiel, c'est de dire que peut-être il ne faut pas penser nécessairement à faire une médiation en ligne à 100%. On peut très bien imaginer de faire certaines phases en ligne. Quand on pense aux phases qui sont plutôt techniques, hein, l'explication de la médiation, ou peut-être à la fin, pour ficeler un accord, un papier, si les accords sont déjà faits, là, c'est peut-être plus facile de faire en ligne. C'est vrai que les phases qui sont plus dans l'approfondissement ou pour la roue de Futak, vraiment beaucoup sur les émotions. Là, c'est probablement avantageux de faire en séance présentielle, même si ce n'est pas exclusivement nécessaire, on en parlera. Mais je dirais, en fonction des phases, on peut très bien passer une fois sur une médiation par visioconférence si on a déjà fait une partie en présentiel ou vice-versa. Je pense par exemple à la première phase où vraiment l'objectif aussi, c'est de gagner la confiance déjà. Pour les parties envers le médiateur, la médiatrice et évidemment aussi le processus de la médiation, là, c'est peut-être plus facile de le faire en présentiel, par exemple. Donc, on peut avoir une approche mixte, présentiel, virtuel. C'est aussi certainement en fonction du domaine et la nature du conflit. On pense à des situations très compliquées, ça peut être des situations pénales. On imagine une situation avec harcèlement sexuel ou pire où la victime ne veut pas être dans la même salle comme l'auteur. Ça peut être un nouveau conflit familial où c'est compliqué pour les personnes de se voir. Peut-être au début, hein, peut-être après deux, trois séances en ligne, elles sont prêtes à se voir dans une séance ensemble en présentiel. J'ai moi-même eu une telle situation. Ou l'une des deux parties. Et là, ça fait déjà beaucoup d'années, on n'était pas du tout équipé pour la médiation par visioconférence, et puis on a fait en navette. Aujourd'hui, je pense, ce cas-là, on aurait pu le faire pas en navette, mais à trois, par contre en ligne, plutôt que dans notre cabinet de médiation. Il y a aussi la question du style de médiation. Si on regarde, par exemple, selon Riskin, donc, Riskin, il donne un schéma sur lequel certainement on va faire une fois un podcast où il définit le style de médiation entre étroite ou large par rapport à la définition du problème. Est-ce que je définis le problème à résoudre de manière très étroite ou de façon très large? Est-ce que j'élargis? Hein, si c'est un problème, on va dire, sur un élément du contrat. Entre deux entreprises, est-ce qu'on va élargir et parler des relations générales, des projets qu'ont les entreprises? Est-ce qu'il y a un gagnant-gagnant quelque part qu'on n'a peut-être pas vu en parlant justement du conflit de façon étroite? Ou sur l'autre échelle, après, c'est l'évaluatif. Est-ce que le médiateur il est plutôt évaluatif? Ça veut dire, on pourrait dire directif si vous voulez, ou elle est plutôt facilitative ou si on veut transformative. Donc, si vous êtes dans une médiation qui est plus étroite et évaluative, donc, étroite dans la définition du problème et évolutive, c'est-à-dire un peu plus directive. Là, c'est peut-être plus simple de faire en ligne que si vous êtes vraiment dans la transformation des émotions, des réalités, et avec une définition large du conflit. Là, je pense que le présentiel se prête mieux. On a aussi le contexte, les besoins des parties, l'âge. Hein, évidemment, avec les jeunes, c'est plus simple de faire en ligne. Pour permettre une intervention rapide aussi, on imagine une médiation où on a besoin de se voir rapidement parce qu'il y a un délai qui vient de tomber ou qu'on a besoin de clarifier quelque chose. Et puis on est, par exemple, le mercredi matin, il faut régler ça vite. Bah, peut-être on trouve une demi-heure mercredi après-midi où chacun peut se connecter depuis son bureau, depuis la maison. Et puis c'est une affaire vite réglée. Donc c'est une séance qu'on ne pourrait pas faire en présentiel. C'est aussi parfois pour éviter l'absence d'une intervention, c'est-à-dire une médiation qui ne pourrait pas se faire si ce n'est pas par visioconférence pour des raisons géographiques, par exemple. Et mieux vaut faire par visioconférence que ne pas la faire du tout. Ça donne évidemment une grande flexibilité géographique. Donc, du coup, aussi au niveau de l'élargissement du domaine d'intervention pour les médiatrices et les médiateurs, Enfin, un peu entre guillemets, mais c'est la réalité. Ça veut dire que le monde devient potentiellement notre champ d'intervention. Ça pose évidemment la question de la concurrence. Si vous avez après si vous êtes dans un pays comme la Suisse, où on est plutôt des tarifs plutôt élevés par rapport au reste de la planète, si vous avez des personnes qui viennent d'autres pays qui peuvent en fait faire les médiations qui sont chez vous, personnellement, je ne me fais pas beaucoup de soucis parce qu'il n'y a pas juste l'intervention, même si c'est un médiateur, une médiatrice de très haute qualité, il y a la connaissance du terrain, la connaissance des institutions, des lois, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Ce n'est pas seulement la technique de médiation pour être un bon médiateur pour les personnes concernées. Et c'est évidemment un gain de temps, hein, si vous vous connectez au lieu de faire une demi-heure de route, aller une demi-heure retour. Pour 1 heure de séance, évidemment, c'est un grand gain de temps. Et puis, c'est vrai que la technique nous permet beaucoup de choses. Ici, pour les personnes qui nous voient en vidéo sur YouTube, un médiateur avec deux grands écrans, et évidemment, on s'approche, si j'ose dire, presque on s'approche de la réalité. On ne voit pas les pieds, évidemment, on parlera tout à l'heure, c'est ça une des limites essentielles. La moitié du corps, on ne la voit pas, mais on peut avoir vraiment une proximité avec la réalité assez importante pour des médiations en ligne. Alors, à quoi faire attention quand on fait des médiations en ligne? Donc là, on passe vraiment au concret. Il y a certaines choses à voir avant, pendant et après la séance. Donc, avant. Ce qui est évidemment très important, c'est d'assurer les exigences technologiques. Il faut que les personnes aient une bonne connexion Internet, une caméra, un microphone, et je ne dis pas juste une bonne caméra, mais dans certains cas, ça m'est arrivé, il faut une caméra tout court. Hein, des personnes qui vous disent, ouais, non, mais moi, je n'ai pas de caméra, c'est un peu embêtant quand même. Un microphone, donc c'est toujours mieux aussi de faire sur ordinateur plutôt que sur smartphone, parce que la visualisation n'est pas du tout la même. Et par rapport aux caméras et aux microphones, c'est mieux d'avoir des microphones et caméras externes. On a parfois des solutions intégrées dans l'ordinateur, surtout pour les portables. C'est toujours moins bien que d'avoir un microphone ou une caméra externe. Elles sont toujours de meilleure qualité. C'est important aussi d'avoir un plan de secours, au moins un numéro de téléphone pour savoir où est-ce qu'on peut se joindre au cas où, si en plein milieu de la séance, la connexion coupe. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être l'un n'arrive plus à se connecter, ou au moins qu'on puisse appeler et puis échanger pour. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on finit pour aujourd'hui, on termine pour aujourd'hui ou pas? Pour pouvoir discuter un minimum, ça c'est important. Il faut assurer le calme pendant la séance. Pas d'enfants, pas de chats. Hein, ça ne dérange pas certains un chat qui passe devant la caméra, mais ça peut quand même perturber. Surtout si c'est peut-être le chat dans une médiation familiale qui était le chat de la famille avant, et puis là, le chat il est chez l'un ou chez l'autre. Pour l'autre, ça peut être un facteur perturbateur. Peut-être pas les voisins ou autres perturbations des personnes qui viennent sonner ou qui rentrent comme ça dans votre bureau. Ça, c'est évidemment à éviter. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi en informer les parties à l'avance si vous êtes médiatrice ou médiateur. De faire une petite charte que vous envoyez à l'avance aux parties avec le lien pour se connecter avec les deux, trois règles spécifiques à la médiation en ligne. Pour la prise de rendez-vous, en tout cas chez nous, on utilise le calendrier de Google qui permet une intégration avec Zoom. Donc, quand je saisis mon entrée dans le calendrier, je peux générer tout de suite un lien Zoom, je peux saisir tout de suite les mails des parties et puis tout le monde reçoit tout de suite. Donc, c'est un gain de temps aussi pour moi. Un peu moins d'administration, c'est toujours bienvenu et c'est très efficace. Pour les personnes qui utilisent Zoom pour la première fois, elles devraient se connecter, je dirais, en tout cas 10 minutes avant la séance. Parfois, il faut installer le logiciel. En principe, il ne faut pas, mais je viens d'avoir une séance avant-hier où le fait d'utiliser Zoom sur le navigateur, ça ne fonctionnait pas. Donc, la personne a dû quand même installer. Ça prend quelques minutes de plus. Et si on peut éviter ça, d'avoir ça en début de séance, c'est fortement préférable. Après, une question très, très importante, qui se trouve où derrière l'écran? Et c'est très important pour la visualisation parce que si vous avez une médiation avec deux parties, prenons une médiation familiale, les deux sont toujours dans la même maison, si c'est une séparation, un divorce, si c'est les deux devant le même ordinateur, la même caméra, Vous n'avez pas trois images comme on a l'habitude d'avoir, hein, chacun devant sa caméra avec trois images, le médiateur plus les deux. Mais du coup, vous avez deux devant la même caméra. Ça fait très bizarre aussi pour les personnes là, parce que de temps en temps, elles vont se regarder comme ça, elles vont se tourner pour se regarder face à face. De temps en temps, la caméra, ça fait des confusions pour tout le monde. Donc ça a évité. Et nous, clairement, si on a des médiations avec des personnes qui se trouvent au même endroit, chacun son ordi, chacun son compte, chacun sa caméra. Ça, pour nous, on pratique comme ça et pour nous, c'est très important. La même question se pose pour les co-médiateurs. La même règle, en tout cas pour nous, chaque co-médiateur devant sa propre caméra. Aussi les interprètes, les avocats. Ben, les avocats, on les a pas très souvent, en tout cas nous, en médiation. Mais ça peut arriver à ce que ils sont devant leur caméra ou pas. Les interprètes, la même question. Les interprètes, on peut imaginer de les avoir sur la même caméra comme l'une des parties. Les avocats, peut-être aussi. Enfin, ça, c'est vraiment, là, je pense, c'est vraiment un peu au feeling et à la pratique de chacun et chacune. Est-ce qu'on fait ça depuis le bureau, depuis la maison, depuis le café Internet? Enfin, comme on a dit, il faut que ce soit un lieu calme, mais c'est important d'attirer l'attention des parties là-dessus. Où seriez-vous? Est-ce que c'est au bureau? Est-ce que vous allez avoir vos collègues qui rentrent, je ne sais pas, téléphone qui sonne, ça c'est important. L'arrière-plan, important aussi dans la mesure où c'est vraiment une question de style. Ceux qui sont sur vidéo, ils voient chez nous ici. Nous, c'est vraiment ça, c'est mon bureau comme il est, avec un petit tableau, deux tableaux de mes filles. On a beaucoup de nature là chez nous, enfin, un bâtiment derrière, un arbre. Voilà, moi j'ai décidé de ne pas mettre un fond d'écran ou cacher. C'est comme ça chez nous. Ça fait peut-être partie aussi de la transparence. Et en plus, je trouve c'est beau, les tableaux, l'arbre. Donc voilà, moi je fais comme ça, j'ai décidé de faire comme ça. Mais évidemment, j'ai fait cette réflexion-là. Ce qui est important chez les parties, c'est que ce n'est pas quelque chose qui perturbe. À nouveau, ça peut être un tableau qui, en fait, l'appartient à l'autre, mais le ménage n'a pas encore été partagé, des choses comme ça, ou ça peut vite être perturbateur. Voilà, ça, finalement, c'est la responsabilité de chacun, mais je trouve que c'est correct et important en tant que médiateur ou médiatrice d'attirer leur attention là-dessus. Après, il y a des réglages à faire dans Zoom. Dans l'administration de Zoom, et là, par exemple, il y a la question qui est peut-être la principale, est-ce que les personnes peuvent rentrer dans la séance tout de suite, est-ce qu'elles sont dans une salle d'attente? Et évidemment, la question, c'est est-ce que je les laisse rentrer les deux en même temps ou pas forcément? Et là, je dirais, faites comme vous pratiquez chez vous au cabinet. Si vous acceptez qu'une partie rentre, vous commencez à tchatcher, vous proposez un café. Où il y a des médiateurs qui font ça, il y a des médiateurs qui font attendre les personnes dehors dans une salle d'attente et les font rentrer uniquement ensemble. Voilà, donc ça, je dirais, pratiquez comme vous avez l'habitude de pratiquer au cabinet, mais si c'est par salle d'attente, il faut faire les réglages pour que les personnes soient dans une salle d'attente. Là, vous pouvez communiquer, vous pouvez envoyer des messages dans la salle d'attente pour dire. On vous laisse rentrer dans 2 minutes ou quelque chose comme ça. Donc pour ça, effectivement, ces solutions en ligne sont très très pratiques. Ensuite, pendant la séance, qu'est-ce qui change par rapport à une séance en présentiel? On a quelques questions de déontologie. Il y a un effort particulier à faire par rapport à la confiance parce que les personnes se trouvent derrière un écran. On se voit pas, on n'est pas connectés physiquement les uns aux autres. Et évidemment aussi la peur que quelqu'un pourrait enregistrer quelque chose. Donc là, il y a un effort particulier à faire par rapport à la confiance envers le médiateur, aussi entre les médias. Peut-être parler un peu plus de ce point-là en début de séance. Parce que c'est plus simple quand on est connecté aussi, je dirais physiquement, hein, dans la même salle. Et puis par rapport à l'enregistrement, là, il faut vraiment insister, 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 que c'est confidentiel, qu'il y a interdiction d'enregistrer, parce que même si vous enregistrez sur Zoom, ça va se voir, hein, Zoom l'affiche, mais vous pouvez placer une caméra quelque part en dehors du champ visible. Vous pouvez faire tourner un petit logiciel sur votre écran qui est invisible, qui enregistre tout. Donc ça, il faut insister là-dessus. Après, là-dessus se greffe la question juridique qui après change en fonction du pays où vous êtes. En Suisse, un juge n'a pas droit d'utiliser tout ce qui sort d'une médiation. Donc même si vous débarquez au tribunal, si jamais la médiation, évidemment, est un échec et les personnes se retrouvent au tribunal, le juge n'a pas droit, le ou la juge n'a pas droit d'utiliser ces éléments-là pour un processus judiciaire. Il y a aussi le volontariat et la terminaison de la médiation, parce qu'évidemment, enfin, avec un clic, vous êtes loin. Ça, c'est un réel défi. Ça peut vous arriver au cabinet aussi, hein. Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière, je pense, 3 ou 4 fois, qu'une personne se lève, elle part, elle sort. Ça s'annonce un minimum. Déjà, dans le non-verbal, on voit que là, il y a quelque chose qui se trame. Et après, évidemment, la personne se lève. D'habitude, elle dit, là, je n'en peux plus, je pars. Et il y a quelques secondes d'intervention possible. Aussi, moi, j'ai l'habitude de suivre la personne et au moins lui parler pour dire au moins, enfin, revenir au moins pour dire au revoir. Et puis, parfois aussi, on reprend la séance, hein, en fonction un peu du cas. Mais en ligne, bah, c'est un clic, on est loin. Donc, ça, c'est un point aussi à insister, peut-être dans les règles de la médiation que vous posez au début, de dire que vraiment, si quelqu'un veut quitter, ça reste volontaire, vous pouvez arrêter la médiation à tout moment, comme ça fait partie de la déontologie. Mais de quelle façon? Et puis, on peut co-décider ensemble. Hein, c'est aussi une règle qui peut être définie ensemble avec les médiés. Le processus, l'emplacement sur l'écran est aléatoire. Hein, ça, c'est un point intéressant, notamment pour les médiations de groupe, parce qu'on sait, hein, ceux qui pratiquent des médiations de groupe, par exemple en entreprise, que l'hiérarchie est représentée dans la salle de médiation, c'est-à-dire le chef ou la chef sera de toute façon au milieu. Et ensuite, vous voyez, en fonction de l'hiérarchie, ça se dégrade vers l'extérieur. Je dirais, si vous avez 3, 4, 5 personnes d'un département, par exemple. Et aussi, c'est très classique, hein, partie 1 à droite, partie 2 à gauche. Si vous laissez les personnes des médias s'asseoir comme ils veulent, c'est clair que tout ça va se refléter automatiquement. Et là, ça, bah, moi j'ai l'habitude plutôt de mélanger, ça dépend un peu du contexte, mais ça, sur Zoom, il n'y a pas besoin parce que tout l'emplacement est aléatoire. Hein. Vous ne savez pas qui sera positionné où. Depuis une des dernières versions Zoom, vous pouvez vous-même bouger les maquettes, vous pouvez le visuel de partie 1, vous pouvez la bouger à droite ou à gauche ou en bas, comme vous voulez. Vous-même, en tant que médiateur ou médiatrice, si vous êtes à l'aise, vous placez au milieu des deux. Tout ça, c'est possible avec Zoom depuis une dernière séance, mise à jour. Par contre, ça s'applique que chez vous. Hein. Ce n'est pas chez les autres que ça va être visualisé comme ça. C'est que chez vous. Donc, chacun doit mettre ça ainsi individuellement pour son écran. Pour le processus, évidemment, il n'y a pas possibilité de signer des documents. Ce qu'on fait dans la dernière séance, une fois on est tous d'accord, on revient pour voir la convention ensemble, on la signe, ça évidemment en ligne c'est pas possible. Il faut procéder par envoi postal ou autre solution. Et ça c'est en ce qui me concerne en Suisse, vraiment j'attends en principe les autorités là-dessus pour trouver des solutions pour faire des signatures en ligne. Il y a une possibilité de signature en ligne. Moi j'utilise un service qui s'appelle Scribble.com qui permet de faire des signatures après validation dans un shop à Lausanne. Par contre, c'est vraiment pas spontané. Il faut valider sa signature avant dans le shop à Lausanne. Après la signature, elle devient valable même pour les tribunaux. En tout cas, en théorie, je ne sais pas si un tribunal acceptera une telle signature en réalité. Est-ce qu'elles sont au courant? Est-ce que... Et puis en plus, puisque c'est une signature électronique, est-ce qu'il faudra la soumettre électroniquement ou est-ce que si j'imprime la signature, enfin, vous voyez, il y a plein de questions qui se posent là autour. En réalité, ça ne marche pas ou pas encore et on espère qu'il y aura des avancements là-dessus rapidement. On est fatigué plus rapidement avec l'écran, avec les choses qui clignotent à gauche et à droite, avec le fait que je ne vois pas que les autres, mais je me vois aussi moi-même. Hein, c'est aussi un avantage. On y viendra tout à l'heure, mais disons, le cerveau est plus sollicité que dans une séance au cabinet. Donc, on est fatigué plus vite. Et là, évidemment, il faut faire plus de pauses. Pourquoi pas faire une petite pause, rien que pour aller prendre son café après 30 minutes, 45 minutes, avant d'entamer la deuxième partie. Toujours pendant la séance, qu'est-ce qui change par rapport à une séance en présentiel par rapport aux outils d'intervention? Très concrètement, évidemment, on a beaucoup d'utilité, beaucoup d'outils sur un outil comme Zoom. On peut par exemple échanger par chat, hein, par exemple entre les co-médiateurs et en chat privé, c'est-à-dire il n'y a que les co-médiateurs qui voient. Mais attention, c'est quand même dangereux parce que si vous cliquez mal votre bouton, ça va s'afficher chez tout le monde. Donc là, c'est quelque chose où il faut faire attention. Ce qu'on fait, nous, c'est plutôt sur WhatsApp. On peut faire tourner WhatsApp en parallèle sur ordinateur aussi. Comme ça, on change de canal. Comme ça, il y a plus de sécurité. Il y a moins de risques que ça soit vu par tout le monde. Si c'est un échange entre co-médiateurs. Et là, vous voyez l'avantage clair par rapport à la médiation cabinet. Ce n'est pas possible. Hein, on ne peut pas se passer des papiers comme ça au cabinet. Ce qu'on fait au cabinet, c'est le reflecting team, comme on appelle ça en anglais. Donc, l'équipe, on va appeler ça réfléchie ou en réflexion, c'est-à-dire de façon transparente, on parle avec l'autre co-médiateur. Hein. Est-ce que toi, tu as prévu de faire autre chose? Comment tu procéderais toi? Et ça, devant les parties. Hein, il n'y a aucun souci de faire ça. Ça, c'est dans les techniques de la co-médiation. L'avantage d'enligner, c'est qu'on peut échanger certaines choses de façon totalement privée. On se voit soi-même à l'écran. C'est un avantage dans le sens que je me vois, je vois comment je suis potentiellement perçu par les autres. Mais ça peut être perturbateur aussi. En tout cas, on voit très bien quand on se fâche, on voit son propre visage, comment il est quand on est fâché. Donc, peut-être les personnes se fâchent un peu moins. C'est pas forcément un avantage parce qu'on a besoin aussi des émotions dans la médiation. Mais en tout cas, c'est un point à savoir, à prendre en compte. Les parties sont forcément face à face. Donc, ils ne peuvent pas se détourner. Hein. Parfois, on voit dans des médiations au cabinet. Les parties sont plutôt tournées vers le médiateur, et puis à un certain moment, c'est d'ailleurs un signe important que la médiation avance dans le bon sens, les parties se tournent vers eux et se parlent directement. Ça, en ligne, vous êtes d'office face à face. Le problème, c'est qu'il y a un regard unilatéral hein, dans les yeux. De toute façon, je regarde la caméra, de toute façon, tout le monde se regarde dans les yeux, mais je ne sais pas que celui qui regarde, est-ce qu'il me regarde moi ou. Voilà, on a l'impression que, mais pas la certitude. En cabinet, vous avez la certitude, quelqu'un me regarde dans les yeux, il me regarde dans les yeux, il n'y a pas de fausse interprétation possible. Il y a moins de langage non verbal, bien sûr, parce qu'on a seulement la moitié du corps, on a la poitrine, la tête, on n'a pas les jambes, les pieds, et il y a des médiateurs qui médient avec les pieds, si j'ose cette expression-là. Donc, je reste connecté avec un pied vers la personne avec laquelle je ne parle pas actuellement pour rester connecté. Et je parle à l'autre ou la jambe. On pointe en direction de la personne avec laquelle on n'est pas en train de parler. Ça garde une connexion avec elle. Tout ça en ligne, vous ne pouvez pas le faire. Les mouvements de pied, tout ça pour voir est-ce que quelqu'un est nerveux, quelqu'un pointe les pieds vers la porte, ce qui peut vouloir dire qu'il a envie de partir. Tout ça, évidemment, on ne le voit pas. On a aussi l'absence des odeurs. Il y en a qui disent c'est un avantage parce que je ne sens pas les mauvaises odeurs. Moi, je rajouterais pour dire que ça vous empêche aussi d'avoir des parfums positifs hein, qui font une ambiance positive pour une séance de médiation. Et il n'est pas possible, ou en tout cas beaucoup plus difficile, de faire des jeux. Hein, par exemple, des cartes, hein, jouer avec des cartes et chacun prend une carte pour exprimer une émotion. Il y a des moyens de faire ça en ligne, mais c'est beaucoup plus compliqué. Vous devez les afficher, changer d'écran, etc. Donc là, il y a des limites claires ou des constellations systémiques, hein, se positionner dans la salle. On peut faire certaines choses avec des outils comme Monty.com, qui permet une visualisation. Les gens, ils cliquent, ils font par exemple une échelle de 1 à 10 et ça sera visuellement affiché. Et disons, ce qui manque là-dedans, clairement, c'est l'aspect un peu physique, disons, tout ce qui est la kinésique. Hein. Il y a pas de corporel, hein. Ça manque, ça reste du virtuel. Alors qu'on sait que le corps, l'impact sur le corps quand je bouge, l'impact sur mon attitude, tout ça, c'est très, très important. Et tout ça, bien sûr, on l'a pas en médiation virtuelle. Alors, qu'est-ce qu'on gagne avec Zoom en plus? Les outils, on peut faire les sondages. Ça, c'est plutôt pour des médiations de groupe. Hein. En 2 à 2, on n'a pas beaucoup besoin de sondages, mais c'est une possibilité. On peut partager les écrans. Hein. On peut vite chercher quelque chose en ligne, l'afficher, partager avec tout le monde s'il faut faire une recherche sur quelque chose. On peut faire des annotations avec des petites flèches, des trucs sur un écran partagé. Ça, c'est peut-être. Ouais, rare qu'on l'utilise, mais qui sait. Les interactions, il y a un pouce qu'on peut mettre, des applaudissements, on peut faire un symbole pour demander d'accélérer ou de ralentir. Ça, c'est aussi plutôt des gadgets, mais voilà, ça existe. Les caucus, là, c'est un véritable avantage. Vous pouvez vous mettre en caucus vraiment confidentiel et protégé à tout moment, très vite. Vous mettez les chambres, vous dites qui va dans quelle chambre et ces personnes-là seront séparées. Donc, vous allez être, si vous faites par exemple, si vous voulez vous consulter avec votre co-médiateur, votre co-médiatrice, il faut savoir si vous voulez laisser les deux médier seuls dans une chambre, mais vous pouvez le faire très vite et revenir aussi tout de suite. Vous pouvez vous mettre l'un des médiateurs avec une partie, l'autre avec l'autre. Tout ça, c'est possible de façon très simple et très rapide. Ça, c'est un vrai avantage. Et le travail collaboratif sur les documents. Vous pouvez annoter des documents, comme je l'ai dit, vous partagez un document Word d'une convention. Chacun peut faire ses commentaires. On voit tout de suite ce qu'on écrit. Ça, c'est nettement plus compliqué au cabinet parce que vous devez déjà partir sur votre ordi, vous tapez, vous allez faire quoi? Ils vont tous se déplacer devant l'écran ou vous allez imprimer 10 fois pour montrer les formulations. Voilà, ça, à l'écran, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Le tour de parole est le mieux respecté, je dirais. Les personnes attendent, en tout cas selon mon expérience, les personnes attendent davantage de laisser terminer l'autre. Et puis aussi, ça c'est à utiliser avec prudence, mais ça m'est déjà arrivé de couper le micro d'une personne en tant que modérateur de la séance. Vous pouvez le faire. Faut le faire avec prudence parce que ça peut être mal pris. Mais si quelqu'un vraiment ne s'arrête pas, vous intervenez en tant que médiateur, la personne ne s'arrête pas. Moi, ça m'est arrivé, je coupe le micro. Ensuite, vous avez tout le calme. Et moi, ce que je fais dans cette situation-là, je me suis excusé. J'ai dit, excusez, désolé, je vous ai coupé le micro. C'est parce que je n'arrivais pas à intervenir. Et puis, je veux rester gardien du processus. Et je trouvais important à ce moment-là de donner la parole à l'autre. Voilà, vous dites un peu en fonction de ce qui se passe. Mais c'est possible. Et ça, en présentiel, difficilement. Vous avez aucun outil qui vous permet de couper la parole de cette façon-là. Tout le monde est à égalité, on l'a déjà dit. La distribution dans la salle, c'est aléatoire. Et puis tout le monde est au même niveau. Ça, c'est un point aussi important. Alors, passons à la dernière phase, à la fin de la médiation ou à la fin de la séance. Là, c'est deux points que je trouve plutôt négatifs. C'est des adieux que je trouve personnellement toujours un peu brusques à l'écran. On se dit au revoir, on clique quitter, puis on est loin. Il n'y a pas de poignée de main, il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de petit au revoir à la porte. Tout ça, ça tombe. Et personnellement, je trouve dommage. Après, voilà, on peut faire un compte rebours qui s'affiche, on peut partager une image avec un merci ou un au revoir ou quelque chose. On peut utiliser les outils de Zoom, les gens peuvent donner un pouce en haut, un peu, voilà, il y a des petites choses comme ça à faire pour casser un tout petit peu cette séparation un peu brusque. Signature des accords, j'ai déjà dit, il n'y a pas de signature des accords par voie postale. Ça, c'est un désavantage actuellement. Mais je suis assez sûr que ça va se régler, enfin, je sais pas quand, mais j'espère rapidement, mais ça va certainement se régler avec la digitalisation du monde. Voilà, ça c'est par rapport aux différentes phases de la médiation. Passons au dernier point. C'est des points très spécifiques à discuter que j'ai sortis. Hein. Pour moi, c'est les trois points principaux. Vous avez vu, il y a certains avantages, certains désavantages pour la médiation par visioconférence. On n'est pas obligé de faire une visioconférence en ligne à 100%. On peut faire certaines phases. Donc là, ça dépend de votre pratique, combien vous vous êtes à l'aise, parce que finalement, ce qui est important, c'est il y a les parties qui doivent être à l'aise, mais aussi vous, en tant que médiatrice et médiateur. Soyez à l'aise, faites comme vous le sentez, regardez si les parties sont à l'aise, et puis là, faites comme c'est praticable, soyez pragmatique par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont assez dogmatiques, je dirais, contre les médiations par visioconférence. Je trouve ça dommage. Ceux qui disent, de toute façon, ouais, c'est magnifique, on fait que ça, c'est pas très réaliste à mon avis. Donc, soyons pragmatiques là-dessus. Les trois points spécifiques, c'est la protection des données sur Zoom. Ça a un peu changé entre-temps. Il y avait au début avec Zoom. Hein, Zoom, c'est une entreprise qui existe depuis longtemps, mais évidemment, elle a eu un succès fulgurant avec la pandémie du Covid. Il y avait beaucoup, beaucoup de discussions assez négatives par rapport à la protection de données. Et à ma connaissance, ils ont quand même beaucoup corrigé ça. Ça, c'est à vérifier par vous-même. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont corrigé suffisamment pour utiliser Zoom maintenant en ligne. Le décryptage s'est fait comme ça doit se faire. Il y avait eu des histoires, je crois, de vente de données à d'autres plateformes. Ça a arrêté, si je suis bien informé. Et n'oublions pas, ce genre de critiques par rapport aux solutions en ligne, elles sont justifiées, il faut les prendre au sérieux, il faut les vérifier, mais n'oublions pas que la protection de données dans votre cabinet n'est pas non plus à 100%. Vous pouvez avoir un cabinet mal isolé, quelqu'un de l'autre côté qui vous entend, quelqu'un qui pointe à la porte, un métier qui amène un micro que vous ne voyez pas, enfin, vous avez à peu près les mêmes problèmes. Et à nouveau, soyons bien, assurons tout ce qu'il faut assurer, mais soyons aussi pragmatiques. La confidentialité, justement, et là, l'enregistrement, là, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment insister là-dessus, je le dis. Ça, c'est peut-être la grande lacune parce qu'on peut enregistrer très facilement tout ce qui se passe à l'écran sans que les autres personnes le sachent. Là, il faut vraiment insister là-dessus. Pourquoi? Parce que la confidentialité, c'est quand même l'élément clé pour la confiance des parties envers le médiateur et le processus. Ensuite, c'est la confiance qui est vraiment un élément crucial pour le succès de la médiation. Donc, ça va en cascade. Hein. Confidentialité crée confiance, confiance crée succès de la médiation. C'est pour ça, au bout de la chaîne, au début de la chaîne, la confidentialité, il faut faire très, très attention. On l'a mentionné, le dernier point, langage non verbal, contact oculaire. C'est un peu particulier parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas forcément dans la caméra, comme moi, je regarde plus l'écran plutôt que la caméra, comme je le fais maintenant pour ceux qui sont sur vidéo. Je regarde mon écran, donc je ne vous regarde pas forcément dans les yeux. On ne sait pas l'autre qui regarde, est-ce qu'il me regarde dans les yeux ou pas, justement. Il y a le langage non verbal qui manque en partie. Certains médiateurs qui pratiquent en ligne disent aussi, en fait, le langage non verbal, le visage est plus proche et plus clair. Évidemment, ça dépend de votre écran, ça dépend de la caméra et de l'autre, mais c'est vrai que si vous avez une bonne caméra, vous avez un grand écran, c'est vrai que le visage, il est tellement proche, tellement clair, on voit peut-être même plus au niveau du langage non verbal sur le visage, en tout cas. Voilà, en guise de conclusion, déjà, merci pour votre attention. La médiation en ligne se pratique de plus en plus. Donc, nous, chez Gameplay Médiation, on l'avait pratiquée déjà avant la pandémie, mais nous la pratiquons beaucoup plus depuis. On fait beaucoup de bonnes expériences. Il y a aussi une des fois une médiation où les personnes refusent de se voir. Donc, on fait en ligne parce que finalement, c'est la seule solution. Mais on est arrivé aussi, en tout cas une fois, à un stade où je dis, écoutez, là, il faut qu'on puisse se voir en présentiel. Moi, je ne le sens pas en ligne. J'ai l'impression qu'on peut mieux avancer en présentiel. Il y a aussi ça, c'est la responsabilité du médiateur, de la médiatrice pour le processus. Mais en tout cas, nous, c'est un outil qu'on va utiliser à l'avenir, de plus en plus certainement. Nous, ça élargit notre domaine d'intervention, ça nous donne des outils supplémentaires. Pour nous, c'est vraiment bénéfique Et quand une situation ne s'y prête pas, on ne l'utilise pas tout simplement. Et je crois que c'est probablement la meilleure solution, la meilleure conclusion à appliquer pour la médiation en ligne. Je vous remercie pour votre attention, pour ce podcast, Perspective de médiation. Abonnez-vous là où vous êtes, sur YouTube, sur le podcast. D'autres émissions vont suivre. Si vous avez des propositions de thèmes qui vous tiennent à cœur, écrivez dans les commentaires ou écrivez-nous un mail. Si vous avez des propositions pour des interviews, c'est toujours aussi avec plaisir si c'est un sujet passionnant. Et on se revoit très, très bientôt sur le prochain webinaire. Je vous remercie et à bientôt.